Je ne sais pas si vous vous souvenez du texte sur lequel nous avons prêché la dernière fois que je me tenais devant vous. Alors c'était un dimanche, le dimanche 3 janvier, où tout le monde n'était pas rentré de vacances. Nous avons lu le début de la seconde lettre écrite à Paul, par Paul à Timothée. Et dans cette lettre, Dans cette lettre, Paul parlait à Timothée et l'encourageait à chasser la timidité. On avait vu que cette lettre, la deuxième épître à Timothée, c'est une lettre très personnelle, hein, que Paul a écrite alors qu'il était en prison. C'est certainement la dernière lettre dans le Nouveau Testament que nous avons de sa main. Il sent sa fin proche et elle est poignante dans ce qu'elle dit. Je vous propose de lire la suite de là où nous en étions, 2 Timothée, chapitre 1, et je lirai donc à partir du verset 8. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, que vous pouvez écouter ou suivre dans vos Bibles. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, n'aie pas honte non plus de moi qui suis prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle en comptant sur la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie éternelle. Dieu m'a établi comme messager et apôtre pour enseigner cette bonne nouvelle et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Prends comme modèle les paroles justes que je t'ai communiquées. Tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur traite avec bonté la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Que le Seigneur le fasse bénéficier de la bonté de Dieu au jour du jugement. Tu connais aussi très bien les services qu'il a rendus à l'église d'Éphèse. Je le disais, une lettre très personnelle de la part de Paul. Il n'a pas peur, quand il écrit à Timothée, son proche collaborateur, d'exprimer sa souffrance, de la dévoiler devant lui. Après l'exhortation des premiers versets où il lui disait de garder le don que Dieu lui avait donné, de le garder et de le mettre en pratique. La foi n'est pas seulement théorique, mets-la en pratique et de ne pas être timide. Laisse l'esprit agir. Ne mène pas une vie en dedans, mais vis par la pleine puissance de l'esprit, sans timidité, lâche tout. Après cet encouragement, aujourd'hui, Paul invite à vivre sans honte. Et ce passage parle de la honte. N'aie pas honte de rendre témoignage. N'aie pas honte de moi non plus. La honte. Qu'est-ce que la honte? La honte, c'est quand on ne fait pas face au regard des autres. C'est, j'ai trouvé cette définition, un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. La honte, il ne faut pas la confondre avec la culpabilité. Les deux peuvent être liés. On peut avoir honte devant les autres parce qu'on a fait quelque chose qui ne nous plaît pas et dont on se sent coupable. Mais on peut aussi se sentir coupable sans avoir la honte avec le regard des autres, et on peut subir le regard des autres sans aucune culpabilité, sans rien de mal que nous ayons fait. On peut sentir ce sentiment d'infériorité ou d'humiliation parce que les autres nous renvoient. La honte. De quoi un chrétien peut-il avoir honte, puisque Paul insiste ainsi deux fois, n'aie pas honte de rendre témoignage, n'aie pas honte de moi qui suis en prison. Je crois que on peut avoir honte d'être chrétien, de porter le message de l'Évangile, non pas parce que ce message est honteux en lui-même, mais encore une fois parce que ceux qui sont face à nous nous regardent de travers et nous font sentir qu'on est différent, nous font sentir qu'on n'est pas comme eux, nous font sentir qu'ils n'aiment pas cette option que nous choisissons pour nos vies, cette direction que nous choisissons pour nos vies. On peut vivre cette honte d'être chrétien, de se dire chrétien, mais on peut aussi la vivre de façon plus insidieuse, pas directement. Par exemple, face à ceux de nos amis qui s'intéressent et qui nous posent des questions, qui nous regardent comme « bah oui, tu es chrétien, c'est ce que ça appartient à ta vie privée ». Il y en a qui, le dimanche matin, vont courir, il y en a qui vont au marché, toi, tu vas à l'église. Ouais, pourquoi pas ? À l'église, on chante des cantiques modernes, on écoute des prédications intéressantes ou inspirantes, on retrouve des amis. C'est une occupation comme une autre. Et on peut ainsi discuter avec des amis curieux qui s'intéressent à cette partie de notre vie privée, mais de façon détachée, de façon curieuse. On peut aussi en parler comme d'une tradition familiale. Moi, je viens d'une famille évangélique ou je viens d'une famille protestante. Et là, on va nous interroger sur quelles sont les différences avec la religion majoritaire. Ou parler d'histoire, d'où vient le protestantisme, d'où viennent les évangéliques, et puis on va parler de ces choses-là, toujours avec distance, sans parler du centre. Parce que être chrétien, c'est plus que ça. C'est plus qu'avoir une identité familiale qui nous est tombée dessus et qu'on perpétue. C'est plus qu'avoir une occupation. Le dimanche matin, l'église en vaut bien une autre. Être chrétien, c'est suivre Jésus. C'est le mettre à la première place. C'est le reconnaître comme la chose la plus importante de notre vie. Et quand on vient nous chercher sur ces terrains plus culturels, plus curieux, on peut avoir la tentation de vivre dans le confort, de répondre sur ce terrain-là, sans s'engager, sans exposer cette différence fondamentale. Comme le dit ce chant, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Et face à ça, Paul rappelle, pour ne pas vivre dans cette honte, il faut se souvenir de qui on suit. Jésus-Christ, Dieu, c'est lui qui nous a donné et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Lorsqu'on nous regarde de travers, ce n'est pas nous qui sommes regardés de travers, c'est notre Seigneur Jésus. Et si nous nous souvenons de ce qu'il a fait, si nous comprenons son sacrifice, alors nous pouvons mettre de côté cette honte et porter avec fierté notre identité en lui. Mais il y a autre chose dont nous pouvons avoir honte, ce sont les autres chrétiens. Parfois, quand on est dans un groupe d'amis, qu'on est accepté, voilà, tu es chrétien, mais tu es aussi avec nous, on peut avoir des questions, mais est-ce que tu es comme eux, comme ces autres chrétiens dont on parle aux informations, dont j'ai entendu parler et qui font des choses bizarres? L'actualité nous donne des exemples avec lesquels nous ne sommes nous-mêmes pas très à l'aise. Aux États-Unis, l'invasion du Capitole par des mécontents, lorsqu'ils étaient interviewés, certains justifiaient leur geste en disant « c'est parce que je suis chrétien que je suis là, c'est parce que je veux servir Jésus-Christ que je suis là ». L'actualité, toujours, dans le débat sur la loi contre les séparatismes, le président de la Fédération protestante de France a été auditionné par l'Assemblée nationale. Et on lui a demandé, mais les évangéliques, est-ce que ce n'est pas un problème dans le protestantisme? Sous-entendu, vous, vous êtes respectable, mais les évangéliques, il y a bien des problèmes chez vous. Ce à quoi Claveroli a écarté, les évangéliques ne sont pas un problème, soyons sérieux. Comment sommes-nous lorsqu'on nous interpelle sur ce que nos frères et sœurs font? Est-ce que nous vivons dans la honte? Non, moi, c'est pas ça, moi, ma foi, c'est différent. Ou est-ce que nous sommes prêts à dire que je ne comprends pas tout, mais c'est la même foi que nous partageons? Comment se positionner? Je ne suis pas certain qu'on puisse cautionner tout ce que font ceux qui se revendiquent chrétiens, mais je pense que avant d'écarter et de nous mêler au concert de critiques de nos frères et sœurs, nous devrions réfléchir. Et Paul invite à réfléchir parce que Paul, là où il est en prison, il le dit, il a été rejeté. Et quand on réfléchit un peu, on peut imaginer pourquoi il a été rejeté. Il est en prison, c'est peu reluisant. Et certains de ses anciens collaborateurs sont peut-être interrogés par le monde qui les entoure. Paul, t'es comme lui, t'es aussi extrémiste que lui, aussi intransigeant. Et peut-être y a-t-il la tentation de répondre, non, pas comme Paul quand même. Il y a moyen de vivre tous les uns à côté des autres, il n'y a pas besoin de prosélytisme. Moi, je suis chrétien différemment de Paul. Paul le dit, il se sent abandonné de tous. Et pour sa défense, pour encourager Timothée à ne pas l'abandonner, il lui dit, Dieu m'a établi comme messager et apôtre pour enseigner cette bonne nouvelle. Et c'est pour cela que je subis les souffrances. C'est pour ça que je suis en prison. La honte. Est-ce que nous nous laissons gagner par la honte ou est-ce que nous sommes fiers de l'Évangile? Lors de ma précédente prédication sur le début du texte, je donnais deux applications, une tournée vers l'extérieur et une tournée vers nous-mêmes. Et je pense que nous pouvons encore avoir ces deux orientations pour l'implication. Il y a l'application évidente de Paul qui dit « n'ayez pas honte ». Mais en creux, Paul nous dit aussi que lorsqu'on a honte, lorsqu'on se cache, lorsqu'on lâche les autres, c'est un sujet de découragement pour nos frères et sœurs. Nous sommes invités à ne pas avoir honte pour rendre honneur à notre Seigneur. Nous sommes invités aussi à ne pas avoir honte, à tenir bon, pour encourager ceux qui cheminent avec nous. Paul, le grand apôtre Paul, montre combien il est touché dans sa prison, parce que tous l'ont abandonné, tous prennent les distances par rapport à lui. Tous, enfin, presque, il y a quelques irréductibles qui continuent à le soutenir. Mais quand même, il ne lâche pas son ministère. Il est prêt à le poursuivre, il est prêt à tenir jusqu'au bout. Il sait pourquoi il fait ça, il n'empêche. Il est atteint, il est découragé. Et il demande à Timothée, toi mon collaborateur, ne me laisse pas tomber toi non plus. Et je pense que nous pouvons entendre cet appel, pas seulement en regardant nous-mêmes, mais en nous regardant les uns les autres, de ne pas laisser tomber, de ne pas avoir honte, pour continuer à nous encourager les uns les autres, à faire corps dans notre témoignage. Et puis, il y a aussi cette application pour nous-mêmes, à ne pas avoir honte. Nous appartenons à divers groupes. Nous avons des groupes d'amis, de connaissances humaines, des cercles dans lesquels nous évoluons, nos collègues, notre voisinage, des amis. Et c'est une bonne chose. Jésus l'a dit lorsqu'il a laissé ses disciples, je ne les sors pas du monde, ils restent dans le monde. Il l'a dit aussi aux disciples, vous êtes sel de la terre, lumière du monde, là pour être dans le monde, lui donner du goût, lui donner de la direction. Nous devons avoir ces appartenances, ces liens avec le monde. Mais celui que nous avons avec Dieu est supérieur. Et lorsqu'on nous regarde de travers à cause de ce lien, nous sommes invités à remettre les choses en perspective, à nous souvenir de ce que nous avons en Jésus-Christ, à nous souvenir de combien c'est supérieur. Nous sommes sur cette terre pour un peu de temps. Le lien que nous avons avec Jésus-Christ dure pour l'éternité. Il nous a sauvés, rachetés alors que nous n'en étions pas dignes. Et c'est avec cette certitude que nous cultivons au fond de nos cœurs et que nous nous répétons les uns aux autres que nous pouvons faire reculer la honte. Parce que, encore une fois, je ne pense pas que c'est parce que, on va dire, n'ayez pas honte que, huit, elle va disparaître. C'est un combat de toujours. Si Paul le dit à Timothée, son collaborateur si proche, c'est qu'il lutte là. Et je pense que si Paul y met de l'importance, c'est qu'il comprend bien la lutte et qu'il lutte lui-même. Nous sommes tous face à cette lutte contre la honte, mais entraînons-nous. Entraînons-nous et pour cela, soyons fiers de ce que nous avons en Jésus-Christ. Cultivons-le en nous, répétons-le les uns aux autres. Aussi, je finirai en répétant ce que dit l'apôtre Paul. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans notre vie, nous nous débattons avec plein de choses. Et tu le sais, il nous arrive de nous débattre avec ce sentiment de honte qui nous fait reculer, qui nous fait nous cacher au lieu de témoigner ou au lieu de nous soutenir publiquement les uns les autres. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi humblement pour que tu fasses reculer cette honte dans nos vies. Que la fierté de t'appartenir, que nous chantons avec tant d'entrain dans nos cultes, nous la vivions jour après jour. Fortifie-nous dans ce mouvement, aide-nous à nous encourager les uns les autres, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen.
Merci Eric.